vue d'ensemble de l'actualité.
Je veux vous dire la vérité, pour certains équipements, on en a pour 3 à 7 jours. Donc, c'est quand même serré. Par contre, on a des commandes devraient arriver dans les prochains jours. Pour l'instant, il n'est pas question qu'on demande à qui que ce soit procéder à des actes sans être protégé. Donc, on n'est pas là. On vous dit que c'est serré. On travaille très fort sur les commandes. On travaille très fort avec l'Ontario. On travaille très fort avec le gouvernement fédéral. Moi, j'ai bon espoir qu'on va être capable de passer au travers.
Très vite, PM.
François Legault, il y a un instant, donc, on s'en va rejoindre le docteur Marquis. François Marquis, qui est intensiviste et interniste au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, docteur Marquis.
Bonjour, bonjour.
Alors, comment on réagit quand on entend son premier ministre dire on en a pour 3-7 jours là, pour certaines pièces d'équipement?
Bien, faut comprendre, là, par exemple, dans le cas des N95, là, c'est que il y a plusieurs modèles. Ces modèles-là doivent être, comme on dit, fité sur le visage de quelqu'un. C'est que moi, les masques qui fonctionnent pour moi ne sont pas nécessairement les masques qui fonctionnent pour mon collègue. Et dans le lot de ces masques-là disponibles, il y a certains qui sont comme plus populaires puis qui sont plus difficiles à obtenir. Mais ça ne veut pas dire que dans 3 jours, il va manquer de masques puis c'est la fin du monde. Il y a moyen, déjà, là, nous, ce qu'on fait sur le terrain, oui, c'est qu'on a checker d'autres personnes pour d'autres masques. Et s'il y a quelqu'un qui a vraiment pu son masque, on le réaffecte à des endroits où il ne sera pas en besoin de ce masque-là. Et on prend quelqu'un qui est dans la zone froide, puis on le ramène parce que lui a ce masque-là. Moi, personnellement, il y a 5 modèles différents de masques que je peux utiliser. C'est que je ne fais pas exprès pour prendre les plus rares, là.
5 modèles, excusez-moi, je suis vraiment, j'ai besoin de précision. Est-ce que vous me parlez de 5 modèles différents du N95 qui vous font?
C'est ça, c'est que le N95, ça, c'est le pouvoir filtrant. Et à partir de là, c'est comme s'il venait en différents modèles. Mm-hmm. Et selon le visage des gens, là, ou comment tu as la forme de ton nez, de ta bouche, de tes mâchoires, il y a plusieurs masques qui sont compatibles. Et ça, c'est une des raisons pourquoi, quand les gens nous appellent en disant « j'ai trouvé 20 caisses de masques de construction, pourquoi vous en voulez pas? » Bien, c'est parce que les N95 de masques de construction sont pas fités sur les visages et donc ils sont pas aussi utiles pour les virus. Il faudrait qu'on les fitte pour tout le monde, puis ça prendrait du temps.
OK, bien ça, c'est très intéressant ce que vous venez de nous dire. Il y en a combien, mettons, à l'intérieur de la famille des N95, il y a combien de différents modèles? D'une dizaine de modèles?
À peu près une dizaine de modèles. La plupart des gens, c'est très, très rare que quelqu'un ne sera compatible qu'avec un seul masque. C'est que là, nous, ce qu'on fait présentement, en parallèle, c'est que on est en train de repasser notre personnel critique des soins intensifs, de la première ligne, pour leur trouver des options. Autrement dit, toi, va-t'en dans cette marque-là, et s'il y en a plus, il y a cette marque-là que tu peux utiliser, puis il y a cette marque-là que tu peux utiliser. Et ça, sur nos cartes d'identité au verso, on a des petits collants, puis ça écrit lesquels qui sont compatibles avec nous autres. Donc, il y a encore, il y a de l'espoir, là. C'est ça le concept, là. On n'est pas sur le bord de l'apocalypse des zombies, là.
Mais là, ça, c'est l'apocalypse des quoi?
Les zombies, là. Tout le monde voit des zombies partout, là. Non, on n'est pas là, là.
OK, mais c'est très clair ce que vous dites, parce que dans le fond, ce que vous nous dites, c'est qu'on peut en manquer pour, mettons, c'est comme les chaussures. Un certain type de chaussures, là, c'est vraiment le meilleur, c'est ce que ça prend. Mais là, il y a des 2, il y a des 3, il y a des 4. Alors, ça se peut qu'on manque de 4, mais on aura encore des 5, des 6, des 7, tu sais?
Exactement, c'est une très bonne analogie.
Bon, maintenant, l'évolution de la courbe, le fait là, qu'on se retrouve aujourd'hui, là, François Marquis, avec une augmentation de 732 cas, là, donc on vient de passer le cap des 4000. Est-ce que ça, c'était attendu? Est-ce que ça vous inquiète? Comment vous réagissez?
Bien, moi, je pense que c'est attendu dans le sens où on est la province, là, corrigez-moi, mais on est la province qui fait le plus de tests. On a travaillé comme des fous furieux à être capable d'avoir la plus grande rapidité de testage. Et donc, c'est un peu normal qu'on soit aussi les champions parce que nous, en fait, je pense qu'on n'en a pas plus vraiment que les autres par rapport à notre population. C'est juste que nous, on le sait. Ça fait des jours et des jours qu'on dit à tout le monde, ne vous inquiétez pas, vous allez voir une explosion des chiffres. Parce que moi, de jour en jour, juste dans mon hôpital, quasiment chaque jour, on double la quantité de tests qu'on est capable de faire. Donc, tous les tests là, qui étaient en attente d'analyse, ben, on a passé à travers et là, on est en mesure de répondre à la demande. juste dans mon hôpital, on a passé de 1 à 2 machines capables de faire des tests. Je pense qu'on est rendu à 4 ou à 5 présentement. Et les gens se relaient sur plusieurs chiffres de travail par jour à ne faire que ça. Surprise, on en détecte plus. Ben oui, mais on en fait plus de tests aussi, là.
Là, je dois vous dire, on va prendre François Marquis, on va le garder, en fait, pour la dernière partie de l'heure. Il pourra répondre à vos questions. Mais là, on va amener dans la discussion le docteur Maurice Gaudreau, qui est président du Collège des médecins. Bonjour, docteur Gaudreau.
Bonjour.
Parce que là, vous avez ce matin déclaré là, dans le papier d'Ariane Lacourcière, Tommy Chouinard et Hugo Pilon-Larose, vous avez dit il y a de la peur sur le terrain à propos de la disponibilité, si je comprends bien, à propos de la disponibilité du matériel de protection?
Non, parce que je lui ai dit évidemment, ça dépend des médecins. Il y a des médecins qui vont traverser ça d'une certaine façon, puis d'autres d'une façon différente. C'est ça que je voulais dire par rapport au fait qu'il y a un certain stress dans la population médicale à ce sujet, comme vous le seriez vous et moi d'ailleurs.
Bien sûr. Oh non, mais je vous pose la question. C'est pas sous forme de reproche. C'est une question très ouverte.
Non. Hein? Je pense qu'il y a une crainte effectivement. Et comme le premier ministre vient de le dire, il y a aussi une crainte par rapport à une pénurie éventuelle de protection et de masques, évidemment.
Ça a dû vous rassurer tout de même d'entendre le premier ministre dire qu'il n'est pas question de demander à un médecin qui n'a pas l'équipement pour se protéger d'aller soigner quelqu'un qui serait infecté ou qui est potentiellement infecté à la COVID. Là.
Absolument, vous avez raison, c'est sûr, par rapport à cela. Et à la question de Mme Lacourcière hier, je répondais qu'il faut déterminer la nature de l'intervention à faire, évidemment. Et je lui disais, puis je le vous dis à vous aussi, à votre émission, à votre public, dans les activités cliniques courantes, si le patient n'a pas de symptômes respiratoires, c'est encore le lavage des mains qui reste la meilleure protection, et ça, on n'arrête pas de le dire. Cependant, si le patient a des symptômes, le masque chirurgical conventionnel est suffisant, le masque de procédure dont on parle. Toutefois, évidemment, si le médecin doit faire une intervention à risque, par exemple, intuber un patient, faire une bronchoscopie ou faire une chirurgie autour de la cavité oropharyngée, à ce moment-là, ça prend l'ensemble du matériel de protection complémentaire, y compris les fameux masques dont on parle.
Dites-nous, Dr Gaudreau, donc président du Collège des médecins, quelles sont les 2 ou 3 questions qui vous sont le plus couramment demandées par vos membres médecins actuellement? Là? Les appels que vous recevez, là, les 2-3 choses qu'on vous demande le plus souvent, c'est quoi?
Ben, c'est surtout par rapport au manque de matériel de protection nécessaire. J'ai essayé de ce que je vous dis là, c'est de résumer les réponses qu'on a fait aux différentes personnes qui nous ont interpellés. Mais évidemment, il n'y a pas de réponse unique et universelle, hein, c'est du cas par cas. Je ne serai sans doute pas le seul à vous dire cela. Tout dépend aussi de l'état du patient et du risque pour le patient par rapport au risque pour le médecin d'être infecté. Mais évidemment, comme le premier ministre l'a dit tout à l'heure, je le recommanderai à un membre de la communauté médicale québécoise de procéder à des interventions à risque sans équipement.
Avant de se laisser, Dr Gaudreau, si je vous demandais... Le niveau d'anxiété que vous mesurez actuellement à l'intérieur de la profession médicale, vous parlez à plein de personnes, à plein de médecins, de différentes spécialités, de différents établissements, de différentes régions. Si vous deviez le généraliser sur une échelle de 0 à 10, vous diriez que le niveau d'anxiété est à quelle hauteur?
J'aimerais bien répondre à ça, évidemment. Je pense qu'il y a un bon degré d'anxiété. Je dirais certainement autour de 5-6, c'est sûr, mais ça dépend de chacun. J'ai le goût de vous dire que les médecins du Québec, je les trouve courageux, engagés, dévoués, et je les félicite.
Je me joins à vous, Dr Gaudreau, pour les féliciter, pour féliciter les médecins, féliciter tout le corps médical, tous les gens qui donnent des soins au Québec présentement. On ne vous le dira jamais assez à quel point vous êtes très important dans notre vie collective et pour certaines personnes dans notre vie dans notre vie individuelle, là, comme personne, si on tombe malade, on a besoin de vous autres. Je rappelle que vous êtes le président du Collège des médecins, Dr Gaudreau. Merci d'avoir pris quelques temps pour nous parler. Là.
Merci à vous.
Et là, je retrouve François Marquis, intensiviste, interniste, donc dans l'Est de Montréal. François Marquis, on va s'arrêter. Je sais pas, avez-vous une réaction à l'entrevue qu'on vient de faire avec Dr Gaudreau? Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez rajouter? Parce que sinon, on va aller à la pause puis on va prendre des appels après.
Bien, rapidement, là, moi, je veux quand même dire que dans le milieu, en tout cas, moi, le milieu où je vis, on comprend qu'on fait partie d'une chaîne de travail, puis moi, puis mon groupe, là, les docteurs, les infirmières, les inhalothérapeutes, les préposés, tout ça, nous, là, on travaille avec les patients, puis on a confiance que les gens, que leur travail, c'est de nous trouver de la protection, sont en train de le faire. On n'est pas en train de paniquer en disant, mon Dieu, demain, qu'est-ce qui arrive si j'ai pas de masque? Non. Il faut vivre avec la confiance du travail en équipe. Puis, eux autres travaillent aussi fort que nous autres. Puis, il y a des solutions. Puis, moi, ma job, c'est de m'occuper des patients. Puis, il y a quelqu'un que sa job, c'est de s'assurer que j'ai de quoi me protéger. Puis, je pense que tout le monde dans ma chaîne travaille bien fort. Puis, d'être à 3 jours de manquer de matériel, là, croyez-moi, c'est pas la première fois dans l'histoire du système de santé que ça arrive.
Ah oui?
Ben, c'est ça la réalité. Nous autres, les pénuries de médicaments, là, c'est pas nouveau, là. Là, c'est un équipement de protection. Mais moi, tous les jours, là, quand il y a une compagnie pharmaceutique qui me dit du jour au lendemain, tel médicament, il te reste pour une demi-journée ou une journée de ce médicament-là, on se revire aux soins intensifs puis en clinique pour dire, OK, ça va être quoi nos plans B? On va travailler avec nos pharmaciens. Avoir des plans de contingentement pour le manque de quelque chose d'essentiel, là, les gens sont... ils sont au courant. Là, ils le voient. Mais le manque, entre autres, les pénuries de médicaments, pas juste au Québec. Là, c'est pas une affaire provinciale. Des fois, c'est une affaire mondiale. Des fois, du jour au lendemain, un antibiotique est retiré du marché alors qu'il est super utile. Puis il disparaît pour 2 mois parce qu'une compagnie a décidé qu'elle le retirait. Nous, de faire face à des pénuries puis d'avoir des contingentements comme ça, c'est un peu business as usual, là. C'est que j'ai confiance que toute la machine autour de moi travaille à trouver une solution à ce problème-là et ça ne m'empêche pas de dormir du tout, là.
Je vous trouve rassurant. OK, on va aller à la pause. François Marquis, restez avec nous. 790-9850, 98985, Drainville à commercial 985FM.ca. Puis là, je vous le dis d'emblée, il n'y a pas de mauvaise question. OK, il n'y a pas de question niaiseuse. On se pose des questions, c'est normal, ça se peut que vous l'ayez déjà entendu, puis mais c'était pas clair, la réponse était pas claire, vous avez le goût de la reposer, reposez-la, là, on va se parler, tu sais, tout est cool. 790-9850. OK, on s'en va aux appels sans plus tarder, c'est Pierre qui nous appelle. Bonjour.
Oui, bonjour. Moi, là, pour moi, là, j'ai un symptôme de rhume ou de grippe ordinaire. Là. Je mouche, quand je tousse, j'ai des sécrétions, je ne fais pas de fièvre. Faut-tu que je reste chez nous, pareil, 14 jours, sans m'empêcher d'aller me chercher du manger? Là?
Bonne question. Docteur Marquis.
Bon. OK. Fait que là, il y a plusieurs choses. Ça dépend. Habituellement, là, je l'aime, cette question-là.
C'est pour ça que savez-vous, je vais vous dire, j'ai eu la même chose en décembre, un peu avant le temps des fêtes.
Bon. C'est ça. Fait que le COVID, là, habituellement, ça donne une toux qui est sèche, OK? Ça donne une petite toux fatigante sèche. Ça fait pas tant de sécrétions que ça. Maintenant, là, le problème, là, c'est le diagnostic par téléphone, hein? Fait que s'il y a moyen de faire autrement que d'aller vous chercher du manger, là, ben ça serait mieux de rester chez vous. Pourquoi? Parce qu'il y en a tellement de COVID autour de nous autres que les chances sont que ça peut bien être ça. OK, la bonne nouvelle, là, c'est que vous n'avez pas de l'air bien ben malade, c'est que vous allez, ça devrait très bien aller. S'il y a moyen de faire autrement, hein, moi, je n'irai pas. OK, c'est ça le concept. Pourquoi? Pas parce que je suis tant convaincu que c'est ça, mais que présentement, parce que dans une épidémiologie, là, quand on regarde comment les infections se promènent, il y en a tellement autour, présentement, qu'on ne prend pas de chance. C'est ça le concept. Puis je comprends que des fois, ça peut être fatigant. Puis nous, comme médecins, on se pose les mêmes questions des fois. Puis je vais vous dire, j'en ai 2 que j'aurais préféré garder travailler, mais on les a mis en isolement en attendant, justement pour ne pas prendre de chance. C'est plate, là, mais si vous pouvez vraiment faire autrement, moi, je ne sortirais pas.
Merci, François Marquis. Petite question par texto. J'ai 38 ans, cancer l'année passée, mais réglé. tout le temps été en bonne santé. Est-ce que je dois prendre plus de vitamines pour renforcer mon système immunitaire?
Bon, la bonne nouvelle, là, c'est que comme est en rémission de son cancer, son risque de COVID là, est à peu près égal à celui de son groupe d'âge. Là. C'est que ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, pour l'histoire des vitamines, il n'y a malheureusement pas de vitamines qui ont prouvé qui allaient aider à combattre ce type d'infection-là. C'est que quelqu'un qui a déjà une alimentation, qui n'a pas de déficit de vitamines, là, qui a une bonne alimentation, le fait de prendre des vitamines ne devrait pas l'aider plus qu'un autre. C'est pas une raison de commencer à prendre des vitamines.
OK, on s'en va à l'appel de Gilles maintenant. Bonjour, Gilles.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Une question très simple. Ça fait un bon petit moment que je n'ai pas entendu la durée de vie du virus sur les objets. Au début, j'ai cru comprendre que c'était 3 heures, mais à un moment donné, j'ai entendu à la télé que... on avait même trouvé des traces du virus 12 heures après sur un banc de parc à Montréal.
OK. C'est une excellente question. Alors, il faut comprendre que comment on détecte le virus, là, on détecte le virus en regardant ses traces génétiques. Donc, un virus qui est intact et capable de vous infecter ou un virus qui a été complètement écrasé, smouché comme un maringouin, on va le détecter pareil. Quand on détecte un virus, je suis pas capable de dire est-ce que ce virus-là est capable d'être infectieux ou pas. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire comme détection. Maintenant, à chaque fois qu'il vérifie sur des surfaces, il faut comprendre que c'est dans des conditions de laboratoire et... Donc, ça s'applique plus ou moins à la vie courante. Ce qui est important de savoir, c'est que même s'il y avait du virus sur votre banc de parc, puis que vous touchez le banc de parc avec vos mains, mais comme vous avez compris qu'il ne fallait pas mettre les mains dans la bouche, puis qu'on fallait se laver les mains, bien, ce n'est pas grave parce que vous allez vous laver les mains. Le virus n'est pas capable de faire des trous dans votre peau, puis il n'est pas capable du banc de parc de vous sauter dans la bouche. C'est que la bonne nouvelle, c'est que même si on détecte du matériel génétique de virus sur des objets des heures après qu'il y ait eu une contamination, parce que vous vous lavez les mains puis que vous faites attention, vous ne l'attraperez pas.
Ça, c'est bien important, Dr. Marquis, parce que dans le fond, ce que vous nous dites, ça se peut que vous en ayez sur les mains du virus à un moment donné, mais si vous avez la bonne idée d'aller vous laver les mains avant de vous mettre, avant de porter la main à la bouche, bien, vous allez le détruire, le virus que vous avez sur les mains, avec le savon, parce que c'est ça que ça a comme effet. Et donc, vous ne serez jamais infecté. Vous allez passer proche, mais jamais vous ne vous serez infecté.
Exactement. Et quelqu'un là, qui aurait une contamination à l'hôpital, pour dire le franche, là, le patient COVID qui tousse, puis là, plein, on a plein la main, puis c'est évident. Bien, je n'irais quand même pas y mettre les mains dans un autoclave. Là. Je vais juste dire « au savon ». Et voilà, ça fait le travail. C'est ultra efficace, l'eau savonneuse, pour tuer ce virus-là. Fait que même quelqu'un qui aurait une contamination flagrante de ses mains, quelqu'un qui s'échapperait un échantillon positif sur ses mains dans le laboratoire, irait se laver les mains avec de l'eau et du savon. Ça serait pas plus que ça. D'accord. C'est à vous dire à quel point c'est efficace.
On s'en va à l'appel de Steve. J'ai d'ailleurs j'ai une place pour un autre appel, le 790-9850. Steve, on vous écoute.
Oui, bonjour, docteur. Moi, j'aimerais savoir, je suis diabétique et j'aimerais savoir si mes taux de mes odds de survie, si je le pogne, sont moins bonnes que le monde.
Bon. Le diabète comme tel va pas avoir d'impact vraiment sur les chances de survie à un COVID. C'est surtout, par exemple, un diabétique qui est très mal contrôlé, qui a développé plein de problèmes rénaux puis de problèmes cardiaques. C'est souvent deux complications d'un diabète mal contrôlé. C'est beaucoup plus eux qui sont à risque en raison des complications du diabète. Mais un diabète bien contrôlé avec un gars qui est autrement en santé, bien, ses chances de passer à travers sont aussi bonnes que quelqu'un d'autre.
Merci. Merci. C'était Jean-François, hein, celui-là. Ça, c'était Steve. Là, on s'en va, Jean-François. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Petite question pour vous. Écoutez, moi, j'ai 38 ans. Je fais d'hypertension contrôlée. Là, mais mon dernier contrôle était très bien. J'étais très bien. Puis, je suis fumeur. Je fais partie des services essentiels. Je suis paramédic. Est-ce que j'ai plus de chances, si je l'attrape, de ne pas passer au travers?
Bon, l'hypertension ne change absolument rien. Le fait de fumer, bon, on le sait tout, on va le répéter un million de fois, là, fumer, c'est pas bon pour la santé, mais là, si quelqu'un n'a pas un emphysème, si quelqu'un n'a pas un asthme mal contrôlé, si quelqu'un n'a pas de bronchite chronique, donc s'il n'y a pas encore eu des manifestations tangibles du tabac, présentement, aujourd'hui, le risque est probablement pas plus grand que quelqu'un d'autre. Par contre, je penserais fortement arrêter de fumer parce que hein, ces petits virus-là, ils sont là pour rester, puis peut-être qu'un jour, ça va revenir par l'angle mort, mettons.
Merci Jean-François pour l'appel. J'ai Richard qui m'écrit, je pense que ça répond à la question. Là, je fais de l'emphysème, quelles seraient les chances de survie si j'attrapais la COVID? D'après la réponse que tu viens de donner, mettons qu'avec l'emphysème, c'est plus compliqué.
Ben c'est ça, c'est pas sorcier, hein. Si le poumon c'est une maladie de poumon. C'est que si le poumon est déjà malade puis qu'il a déjà de la difficulté à faire son travail, ben c'est certain que ça va avoir un impact. À partir de là, les chances sont pas zéro, mais c'est certain qu'on part avec un handicap, hein. C'est ça le concept. Et je veux pas dire là que tous les patients emphysémateux ont aucune chance avec un COVID, mais à patient égal, même groupe d'âge, deux frères jumeaux, mais il y en a un qui a fumé puis qui a de l'emphysème, ben ce frère jumeau-là a moins de chance. Ça veut pas dire que celui qui a jamais fumé est certain de passer à travers. C'est une question de probabilité. Nous, on regarde ça sur des populations. Plus vous avez le poumon malade, moins c'est une bonne chance de passer à travers le COVID. Mais c'est certain que si on regarde tous ceux qui sont en Italie puis qui ont de l'avance sur nous autres, c'est certain qu'il y en a des emphysémateux qui ont passé à travers. Comme on dit, c'est pas parce que tu as 75 ans et plus que tu es mort avec le COVID. C'est juste qu'à peu près 10 à 15 fois plus de personnes qui vont mourir dans ce groupe d'âge-là qu'il y en a chez les 30 ans. Et ça veut aussi dire que c'est pas tous les 30 ans qui s'en sortent. Moi, présentement, dans mes soins intensifs, j'ai un jeune homme dans la trentaine qui se bat pour sa vie, et ce jeune homme-là est en parfaite santé. Donc, ça arrive. Ne pensez pas non plus, parce que vous avez 30 ans, qu'on s'en fout et qu'il n'y a aucun danger.
Dr. François Marquis, intensiviste, interniste au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Il est un personnage important de la série 24-7, si vous voulez écouter ça sur Télé-Québec. Et c'est un excellent vulgarisateur. Merci beaucoup, François.
Merci, bonne fin de journée.
Toi aussi. Après la pause, c'est Luc, le tour d'horizon. Où est-ce qu'on en est avec la COVID dans le monde?